Alléluia. Merci à notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Tu étais en quel? Tu étais en do, tu étais en ré, tu étais en quoi? Ah, tu ne connaissais pas, d'accord. Voilà, alors en ré, généralement je chantais avec des notes simples. En ré, ré, do. Ah, en plus, il était en mi. La prochaine fois je prendrai la guitare parce que je joue aussi de la guitare. Peut-être que la prochaine fois je vais jouer moi-même. Alors, ce soir, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur. Et nous allons ensemble pendant 3 jours découvrir pourquoi Dieu se révèle. Nous allons parler de révélation pendant 3 jours. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir pourquoi Dieu intervient-il de façon particulière, spectaculaire, extraordinaire dans nos vies. Pourquoi Dieu prend-il la peine de déployer toute sa puissance, sa force pour nous distinguer, pour nous mettre au large? Pourquoi Dieu vient-il à nous? Pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi Dieu nous fait des clins d'œil divins? Donc nous allons parler pourquoi Dieu se révèle, et donc nous verrons 5 raisons majeures, principales, pourquoi Dieu se révèle. Et c'est important que nous puissions comprendre le sens même de la révélation. Alors je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le premier livre, le livre des origines, et nous allons rester dans un premier temps sur le premier verset du chapitre 1 de Genèse. Donc nous allons voir les 5 raisons majeures de la révélation de Dieu, en d'autres termes pourquoi Dieu se révèle. Quelles sont les raisons qui poussent Dieu à se révéler? Quelles sont les raisons qui poussent Dieu à venir montrer sa force et sa puissance aux hommes? Et lorsque nous lisons notre Bible, nous sommes grandement et agréablement surpris de constater au premier verset de la Genèse, il est écrit « Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. » Alors nous allons nous arrêter là d'abord. La Bible dit qu'au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Donc, ça veut dire que Dieu va créer le visible comme l'invisible. Et j'aimerais nous dire ce soir, ce n'est pas parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas que ces choses-là n'existent pas. Amen. Parce que Dieu a créé le visible comme l'invisible. Parce que la création n'est pas que visible, elle est également invisible. Et donc, ça veut tout simplement dire que il y a des choses que l'œil humain ne voit pas, ne perçoit pas, mais ces choses existent. Mais pour pouvoir percevoir ces choses que l'œil humain ne voit pas, il faut justement qu'il y ait la révélation. Amen. Sans la révélation, il y a des choses qui vont échapper à notre connaissance. Je vous prends un exemple simple. Qui a déjà vu de ses propres yeux un microbe? Des bactéries. Nous ne pouvons pas les voir en fait avec nos yeux. Mais l'homme a eu l'ingénieuse idée, l'inspiration de pouvoir concevoir le microscope. À travers le microscope, nous pouvons découvrir ce que l'œil humain ne peut pas voir. À travers le microscope, nous découvrons qu'il y a une existence que nous n'arrivons pas à percevoir. Donc, il y a un élément, il y a une chose qui nous permet de découvrir. Et donc, à travers le microscope, nous avons donc la révélation de ce que nos yeux ne voient pas, mais qui existe. Donc, c'est la même chose. Dieu créa les cieux. Création invisible, Dieu créa la terre, création visible. Et pendant 6 jours, Dieu va créer le monde, Dieu va installer les choses sur cette terre. Maintenant, pourquoi Dieu il va faire tout ça? Déjà, à travers la création, nous avons des informations sur le Créateur. Je dis des informations, je ne parle pas de connaissances, je suis en train de parler d'informations. À travers le monde qui nous entoure, l'homme se pose des questions, l'homme s'interroge. On cherche à comprendre le sens de ce qui nous entoure. Et j'aimerais encore dire ceci, là je suis dans mon introduction. Faute de révélation, les hommes ont imaginé Dieu. Quand il n'y a pas la révélation, il y a l'imagination qui prend place. C'est pourquoi, faute de révélation, les gens ont cherché à donner un sens à la création. Les gens ont cherché à expliquer la création selon leur compréhension. C'est pourquoi nous avons la philosophie qui a intervenu. Nous avons les différentes mythologies qui ont essayé d'expliquer le sens de la création, avec notamment tous ces dieux qui ont été fabriqués pour essayer de dire, bon, ben la nature, il doit certainement avoir un dieu pour la nature, un dieu pour le soleil, un dieu pour la mer, un dieu de paix, un dieu d'amour, parce que faute de révélation, les hommes tombent dans l'imagination. Pourquoi? Mais parce que la révélation est une initiative divine. C'est Dieu qui vient vers les hommes. Si Dieu ne vient pas à nous, nous ne pourrons pas comprendre qui il est. Et ça, c'est important. On ne peut pas inventer, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas imaginer Dieu. Mais à travers la création visible, nous avons des informations sur la nature de Dieu. Nous pouvons nous poser des questions, mais si il y a un Dieu quelque part, donc il doit être fort et puissant. Parce que lorsqu'on voit ce qui est créé dans le monde, on se dit, c'est pas possible, comment il a fait? Même si nous n'arrivons pas à le nommer véritablement, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de la philosophie, on a commencé à dire, bon, certainement, ça c'est la raison, c'est l'absolu, c'est l'idée suprême. On a essayé de donner des titres et des noms parce que on n'avait pas la révélation. Mais on essaie de comprendre ce qui nous entoure avec la tête. Or, je le dis, la révélation est une initiative de Dieu lui-même.
Amen.
C'est Dieu qui vient. Je reprends. La création nous donne des informations. Mais la révélation nous permettra de connaître Dieu. L'information et la connaissance, ce n'est pas la même chose. On peut être informé sur Dieu et ne pas connaître Dieu.
Amen. Amen, amen.
On peut avoir des informations sur Dieu et ne pas connaître Dieu. Le patriarche Job était un homme qui était intègre. Il marchait en obéissant au Seigneur. Mais Job marchait et servait Dieu sans connaître Dieu. Ça peut nous choquer, mais au jour d'aujourd'hui aussi, nous avons des personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu, mais qui, dans leur façon de vivre et de faire, elles sont correctes sur la terre. Elles ont une bonne moralité. Job a marché sans connaître Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, il va dire. Et quand Job est en train de parler à ce moment-là de sa vie, il ne parle pas au moment où tout va bien dans sa vie, c'est au moment où Job a tout perdu. Job va tout perdre, mais quand il va tout perdre, Dieu va venir à lui. Et il va découvrir Dieu. C'est pourquoi il y a, dans le livre de Job, il va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Quand Job est en train de dire à Dieu, mes oreilles avaient entendu parler de toi, Job a déjà tout perdu. Mais avant qu'il perde tout, Dieu lui-même témoigne que c'était un homme intègre.
Amen.
Mais là, Job, il a tout perdu malgré le témoignage de son intégrité. Il va dire à Dieu, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Donc, il avait des informations. Et il dit, mais maintenant, c'est-à-dire dans son état où il a tout perdu, son maintenant, le maintenant de Job, là, ce n'est pas le maintenant quand il était encore en format, c'est le maintenant où il a tout perdu. Il dit, bon, maintenant mon œil te voit, je t'ai vu. C'est quand il perd tout que Dieu vient vers lui et il découvre ce Dieu dont il avait entendu parler, il découvre Dieu. C'est pourquoi on peut avoir des informations, mais sans connaître Dieu. Mais les informations peuvent nous amener à la connaissance. Mais l'information, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Donc, à travers ces quelques jours, nous allons voir ensemble le mystère justement de la révélation. Je vous ai dit que la révélation est une décision divine. C'est Dieu qui vient vers l'homme pour montrer à l'homme qui il est. Parce que vous ne pourrez pas découvrir la nature de Dieu si lui-même il ne vous donne pas accès à cela. Parce que si vous n'avez pas accès à la nature de Dieu, vous allez inventer comment il fonctionne.
Amen. Amen.
Vous allez avoir une idée sur Dieu. Vous allez penser que Dieu est comme ça. C'est pourquoi plusieurs religions de ce monde et plusieurs dogmes philosophiques ont essayé d'imaginer des choses autour de Dieu, sur sa nature, sur son caractère, parce qu'il n'y avait pas la révélation de Dieu. Et donc, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que lui, il a une volonté. C'est pourquoi nous parlons des raisons. Pourquoi Dieu veut se révéler et pourquoi Dieu se révèle à nous. Alors, la première raison pourquoi Dieu se révèle à nous, elle est simple, c'est parce que Dieu veut être en relation avec les humains. Dieu est un être communicatif et personnel. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Nous ne pourrons pas le connaître si lui-même ne vient pas vers nous. Et comme Dieu veut communiquer, c'est pourquoi vous avez remarqué dans votre Bible que tous les soirs, la Bible dit que Dieu descendait dans le jardin pour discuter avec Adam. Dieu veut communiquer avec l'homme. Dieu veut parler avec nous. Dieu veut échanger avec sa création. Donc, la première des choses, il veut d'abord que nous puissions être en relation, qu'il y ait un point de contact. Quelque chose qui va permettre à l'homme d'être en communion avec lui. Or, il n'y a pas de communion sans relation. Ça commence d'abord par une relation et ensuite vient la communion. Donc, vous ne pouvez pas parler de communion avec Dieu si au préalable vous n'êtes pas en relation avec ce Dieu-là. Mais cette relation, c'est lui-même qui doit rendre cela possible. Dieu se révèle pour être en relation avec l'homme parce que c'est un être relationnel et communicatif. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les personnes de la Bible, que ce soit même les Caïn, les Abel, Dieu vient vers ces personnes-là et il parle à ces personnes-là. Les Noé, les Abraham. Lorsque Dieu vient, c'est pour parler. Il ne reste pas dans son ciel et puis non, il vient et il parle. Il veut établir un contact avec l'homme. Il veut communiquer. Ça, c'est le commencement. Donc, ça commence donc par ce point de contact, parce que, vous savez, on ne peut pas connaître une personne si, au préalable, il n'y a pas un lien qui se met en place. Vous êtes en communion avec des personnes que vous connaissez, avec qui il y a eu déjà un premier contact. Si on ne s'était pas rencontré en Bretagne avec votre pasteur, je ne serais pas là ce soir. Il y a eu un point de contact qui a permis cette relation. Et dans la relation, il y a des choses, après on découvre. Donc, ça commence par la relation avec Dieu. Dieu veut que nous puissions être en relation avec lui. Il ne veut pas rester tout seul, c'est juste une image, hein, tout seul dans son ciel, et puis nous on est là tout loin sur la terre. Dieu veut être proche de l'homme. Dieu veut être proche de l'homme. C'est pourquoi, à travers la personne de Jésus, vous voyez comment Dieu il descend au niveau humain. Dieu, esprit grand, puissant, redoutable, mais il descend au niveau de l'homme pour pouvoir compatir à la souffrance humaine. Il aurait pu nous sauver par un claquement de doigts. Il est Dieu. Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix pour que nous soyons pardonnés et sauvés. Mais Dieu est descendu à notre niveau. Il est descendu au niveau de l'homme. Donc, première des choses, pourquoi Dieu se révèle, c'est parce qu'il veut d'abord que nous soyons en relation. Maintenant, là où ça devient un peu plus sérieux, c'est la deuxième raison. Pourquoi Dieu veut que Dieu se révèle à nous? C'est parce que Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut que nous puissions le connaître, la connaissance de Dieu. Et c'est là que nous allons voir également à travers l'histoire d'un peuple, parce que nous allons beaucoup parler de ce peuple pendant ces quelques journées. Nous allons voir le peuple d'Israël, le processus de la révélation de Dieu avec ce peuple-là. Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut que nous puissions le connaître. Or, connaître Dieu, c'est expérimenter Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas savoir juste ce que Dieu fait, mais c'est expérimenter Dieu. Et c'est là où ça fait toute la différence. Il y a des personnes qui savent beaucoup de choses sur Dieu, mais qui n'ont pas vécu Dieu. Qui pourront vous raconter plein d'histoires sur Dieu, sur l'Ancien Testament, mais qui n'ont pas vécu Dieu. Pourquoi? Mais pour la simple et bonne raison, parce que Dieu ne s'est pas révélé.
Amen.
Or, la révélation, comme je l'ai dit, c'est toujours une initiative où ça part, c'est Dieu qui vient. Ce n'est pas l'homme qui va chercher pour connaître et après imaginer, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Et donc, dans l'histoire des enfants d'Israël, nous allons voir la vie de Moïse. Ça commence par Moïse d'ailleurs. Et remarquez que, je le dis comme ça parce que je suppose qu'on connaît un peu l'histoire. Lorsque Moïse est en train de paître dans Exode chapitre 3, on nous parle de Moïse qui est en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et pendant qu'il est en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, il va remarquer au loin quelque chose d'assez étrange. Déjà, il y a la montagne de Dieu qui est là. Et ensuite, il va voir un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il est face à une action surnaturelle. Parce que Dieu n'est pas naturel.
Amen.
Bon, comme Dieu n'est pas naturel, il ne va pas opérer dans le naturel. Il faut qu'il vous montre déjà qui il est. Parce que le but de la révélation, c'est que tu puisses arriver à savoir qui il est.
Amen.
Pas ce qu'il fait, hein, c'est qui il est. Son être. Alors, Moïse découvre un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Donc, à travers cela, Dieu va interpeller son serviteur. Dieu va interpeller. Donc, en dehors de ce phénomène, nous constatons que non seulement le buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. Mais en plus de cela, il y a une voix qui va se faire entendre. Dieu parle. Donc, Dieu attire l'attention de l'homme. C'est pourquoi je prends l'exemple de la création, mais également avec l'image de Moïse. La création nous interpelle sur Dieu. On est étonné par les choses qui nous entourent, comme pour le buisson ardent qui interpelle. Ensuite, Dieu parle. Dieu communique. Dieu veut s'exprimer avec sa créature. Il appelle Moïse par son nom. Moïse. Moïse, il n'a pas dit le berger là, monsieur. Il l'appelle par son nom.
Amen. Amen.
Dieu nous connaît tous, hein.
Amen.
Par nos noms. Dieu connaît ton histoire.
Amen.
Ah oui. Il dit Moïse, Moïse, Dieu parle, Dieu communique. Donc Moïse découvre que ce Dieu-là, il est assez spécial. Déjà, il est dans le surnaturel, en plus il parle. C'est pas un Dieu juste qui est dans le surnaturel et qui est muet, mais c'est un Dieu qui est dans le surnaturel, mais qui parle et qui me connaît. C'est important de le savoir, que Dieu te connaît. Ensuite, Moïse se rapproche de plus en plus et ce Dieu qui parle lui dit « Arrête-toi, attention, ôte tes sandales. » Parce que là où tu es, là où je suis, c'est saint. Dieu révèle une partie de sa nature qu'il est saint. Donc, déjà dans les premiers instants de sa rencontre avec Dieu, Moïse découvre non seulement Dieu est surnaturel, Dieu parle, mais également Dieu est saint. Mais si Dieu n'avait pas rendu cela possible, comment Moïse allait savoir? C'est Dieu qui rend cela possible. C'est Dieu qui montre, qui révèle cela. Dieu dit à Moïse, je suis saint. Et donc Moïse découvre ce Dieu-là. Et non seulement il le découvre à ce niveau-là, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu donc parle à Moïse, il explique le but donc de son appel. Après, Moïse est assez hésitant parce que cette mission que Dieu lui confie est assez grande. Alors Moïse, il cherche des assurances. C'est là que Dieu opère encore miracle. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il va jeter son bâton, le serpent, il va mettre sa main dans son sein, la lèpre. Moïse découvre que ce Dieu-là, attention, il ne faut pas jouer avec lui. Parce qu'il fait des choses vraiment qui nous dépassent. Mais Moïse, malgré cela, c'est vrai, Dieu, tu me permets de connaître, mais il n'est pas totalement encore assuré. Parce que je vais aller, moi, c'est vrai, tu m'as montré à moi, moi j'ai vu. Mais les gens vers qui tu m'envoies là, eux, ils ne t'ont pas vu. Alors il dit à Dieu, mais si je vais les voir, je vais dire quoi? Parce que le peuple qui est en Égypte, c'est une génération qui est née dans la servitude, qui n'a pas connu pas d'autre Dieu que le Dieu des Égyptiens. C'est pourquoi je dis qu'on va beaucoup parler des enfants d'Israël, parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui est le Dieu de leurs ancêtres, eux qui sont nés en Égypte, ils n'ont pas connu ce Dieu-là. Ils ont entendu parler, mais ils ne le connaissaient pas. Maintenant, imaginez un peu, comme on dit, le piment dans la sauce, parce que on leur dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est leur Dieu. Mais entre-temps, ils sont dans la servitude. Ça donne l'impression que le Dieu de leurs ancêtres est un Dieu qui est faible. Parce que toutes ces générations-là, vous vous rendez compte, ils naissent esclaves, ils meurent esclaves, une autre génération passe. Ils naissent esclaves, ils meurent esclaves. Ils naissent esclaves, ils meurent esclaves. Et on leur dit que vous, le Dieu de vos ancêtres, il s'est révélé à Jacob, etc. Mais il est où Dieu? Entre-temps, ils sont dans une civilisation qui est polythéiste. C'est l'Égypte antique avec tous ses dieux. Autour d'eux, il n'y a que des dieux égyptiens. Mais leur Dieu, on dit que c'est le seul Dieu. Mais il fait quoi? Donc Moïse savait que c'était une problématique. Moïse savait très bien que s'il venait dire aux enfants d'Israël, il y a le Dieu de nos ancêtres là, qui m'a envoyé. Il m'a dit, mais depuis toutes ces années, il était où? Ah ben oui, il était où? Pendant 400 ans, où était Dieu? On était dans la souffrance. Nos pères sont morts dans la souffrance. Et tu me dis que le Dieu de nos ancêtres là, il t'a appelé? Non! Il y a un problème. Et Moïse était conscient de ce problème. Quel est ton nom? Puisque les dieux égyptiens, chaque dieu avait un nom. Donne-moi maintenant un nom. Peut-être ça pourra les rassurer. Un dieu parmi tant d'autres dieux. Il dit, dis-leur, celui qui s'appelle Je suis là, m'a envoyé. Le Dieu qui est éternel, éternellement présent, m'a envoyé. Et voilà comment toute l'histoire se passe. Donc, je parle ici de la deuxième raison qui amène Dieu à se révéler, c'est qu'après qu'il a établi le contact avec nous, Dieu veut que nous puissions maintenant le connaître. Parce que maintenant que le contact est là, ça va lui donner la liberté de mieux s'exprimer. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, si par la foi en Jésus-Christ, nous n'avons pas cru en Dieu, il n'y aura pas de relation. La seule façon d'être en relation avec Dieu, c'est de pouvoir être né de nouveau.
Amen.
Notre Père qui es aux cieux. C'est là où commence la relation. Parce que le donne-nous là, notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses là. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour ceux qui le reconnaissent comme Père et qui sont fils.
Amen.
Or, le fils avec le Père, c'est une relation.
Amen.
Tout le monde n'est pas en relation avec Dieu. Et tout le monde ne peut pas l'appeler Père. Il est le Père de ceux qui ont reconnu le Fils.
Amen.
Ceux qui ont reconnu le Fils, qui ont eu la foi au Fils, deviennent fils de Dieu. Et ils peuvent l'appeler Abba, c'est-à-dire notre Père. Tout le monde ne peut pas l'appeler Père. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu.
Amen.
Et il est en relation, pas avec toute la création, il est en relation directe avec ses fils et ses filles. Ça commence par là. Et lorsque nous sommes en contact donc avec Dieu à travers cette relation par la personne de Jésus-Christ, c'est là maintenant nous allons apprendre à découvrir qui il est. Le but de la connaissance, c'est d'amener justement ce qu'il a révélé à Moïse, je suis. C'est-à-dire qui il est. Quand Dieu se révèle, c'est pour que nous arrivions à l'évidence qu'il est, c'est-à-dire le je suis. Il est trois points de suspension. Le je suis devient une réalité. Je suis. Or, si on dit qui est Dieu, beaucoup vont parler de Dieu en fonction de ce qu'ils regardent autour d'eux. Mais combien parlent de Dieu en fonction de ce qu'ils ont expérimenté eux-mêmes? Je disais à une église que, vous savez, Dieu sait ce que David lui avait dit dans les psaumes. Dieu sait ce que Salomon lui avait dit. Dieu sait ce que Moïse lui avait dit. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Parce que nous aimons adorer par procuration. Parler de Dieu par procuration, toujours au nom des autres. C'est comme si Dieu n'appartient qu'à l'histoire passée. Le Dieu qui a fait ceci, le Dieu qui a fait... Il n'y a pas de problème, on peut le dire. Mais quand est-ce que nous arriverons, nous, aujourd'hui, à dire, Seigneur, par rapport à aujourd'hui, ma vie, là, tu es ceci, tu es cela, par rapport à moi? Pourquoi on n'arrive pas à l'adorer par rapport à nous? Ces personnes qui ont parlé de Dieu, là, elles vivaient des situations. Mais dans ces situations-là, Dieu se révélait.
Amen.
Et ça les a amenés justement à dire « tu es ». Mais vous ne pouvez pas dire que tu es s'il n'y a pas eu une situation dans votre vie où Dieu s'est révélé.
Amen.
Le « tu es » est un résultat, c'est la conséquence de quelque chose. Tu ne peux pas dire « tu es à Dieu », tu n'as rien expérimenté, tu n'as rien vu. Et tu dis tu es, sur quelle base tu vas dire que tu es? Vous savez, l'adoration, et on le verra, l'adoration ce n'est pas beaucoup parler, c'est pas la multitude des mots. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas qu'on dise beaucoup de choses, hein. C'est de dire ce qu'il a réellement fait pour nous. Ça peut être une simple phrase, mais tu as dit l'essentiel.
Amen.
Tu es Dieu, tu es mon Seigneur, tu es grand. Quand tu parles de grandeur, tu sais pour de quoi tu parles. Tu ne parles pas juste parce qu'on a l'habitude de dire. Parce que Dieu est du domaine de la révélation. Il faut qu'il y ait un vécu, je vous assure. Si tu n'as pas un vécu avec Dieu, tu vas marcher, à un moment donné, tu vas tout lâcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une histoire, il n'y a pas eu un commencement. Il n'y a pas eu un jour. Parce que ça commence par un jour.
Amen.
C'est-à-dire que dans ta vie, il y a beaucoup de jours. Mais le jour où Dieu t'a visité, là, tu ne peux pas oublier.
Amen.
Le jour de la visitation de Dieu n'est pas un jour comme les autres jours. C'est-à-dire que ça reste la marque et ça imprimé en toi. Parce que c'est le jour où tu as été véritablement troublé, bouleversé, perturbé. Où tu as dit vraiment, il faut que je mette ma vie en règle, ça ne va plus. C'est, ça commence par un jour. Un jour où tu pourrais être à mesure d'expliquer aux gens réellement ce qui s'est passé. Posez la question à Abraham, il vous dira, oui, un jour. Ça se passe toujours en un jour. Un jour, j'étais là, dans le pays de mon père, et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Demandez à Noé, il vous dira, j'étais là dans mon pays, j'ai entendu la voix qui m'a dit, va faire l'arche. Un jour. Ça se passe toujours en un jour. Un jour, s'il n'y a pas un jour dans ta vie, là, ça veut dire que tu le sers, mais sans avoir la révélation. Vous savez, on peut être religieux, on peut venir à l'église, mais sans avoir connu Dieu.
Amen.
On peut être né dans une famille chrétienne et ne pas connaître Dieu. L'éducation chrétienne ne fait pas de nous des chrétiens. Amen. L'éducation chrétienne ne fait pas de nous des hommes et des femmes qui connaissons Dieu.
Amen.
Connaître Dieu, ça se passe en un jour. Il faut qu'il y ait un jour là. Parce que tu dois avoir une histoire à raconter aux gens. Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu marches avec le Seigneur? Donc, si tu n'as pas une histoire à raconter, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu aies une histoire à raconter aux gens.
Amen.
Mais si tu es là dans la foi chrétienne et que tu n'as pas une histoire, tu n'as même pas un point de départ, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Parce que tu n'as pas de repère. Chacun de nous devrait avoir un repère pour lui permettre de dire aux gens, ça s'est passé comme ça parce qu'il y avait ça. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait, c'est parce que je suis en train de dire, je suis en train de parler du commencement, comment tout a basculé dans ta vie. Je parle de ce jour-là. Après, il y a la marche, ça c'est autre chose. Moi, je parle de comment tout a basculé dans ta vie, où tous tes fondements de la vie, toute ta philosophie, tout a été renversé. Et tu t'es dit que je veux servir le Dieu de la Bible. Mais s'il n'y a pas un jour, tu vas beau aller dans les églises, fréquenter des réunions chrétiennes, mais pour Dieu, tu n'es pas une nouvelle création. Parce qu'il y a beaucoup de religieux aujourd'hui. Or, il faut que nous puissions saisir la révélation de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ était la révélation. Il était la révélation de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans l'ancien temps, Dieu était le lion de la tribu de Judas. Dieu terrorisait les gens, Dieu terrifiait. Les gens, tout le monde ne peut pas s'approcher de Dieu. Dans l'ancien temps, c'était difficile pour les gens de percevoir l'amour de Dieu. Parce que Dieu était comme ça. Quand vous lisez votre Bible dans l'Ancien Testament, il ne rigole pas. Hein? L'Ancien Testament, vous sentez qu'il ne rigole pas. Hein? Ah oui, il y a le péché, tout de suite, il frappe. Hein? Il ne négocie même pas. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus vient révéler le cœur du Père, l'amour de Dieu.
Amen.
Que dans le Dieu, là, où il y a la sévérité, il y a aussi l'amour. Il y a aussi le pardon.
Amen.
Il y a aussi la patience de Dieu.
Amen.
Mais c'est le Fils qui révèle le Père au monde. Si le Fils n'avait pas révélé cela, on n'allait jamais qu'aller s'approcher même de Dieu.
Amen.
Comme disait mon épouse souvent, que s'il n'y avait que la sainteté de Dieu, là, personne ne s'approcherait de Dieu. Hein. Heureusement qu'à la sainteté, il y a aussi l'amour de Dieu pour l'équilibre. C'est parce qu'on sait que Dieu est amour, qu'il nous aime, on peut s'approcher de lui. Hein. Mais s'il n'y avait que la sainteté de Dieu, je vous assure, comment on allait le servir? Comment? On le servirait dans la crainte. On serait terrorisé. Vous comprenez quand les enfants d'Israël, à un moment donné, ils disent à Moïse, bon, écoute Moïse, nous aussi on veut voir Dieu. C'est vrai, Dieu n'était pas venu, nous aussi on veut voir Dieu. Dieu dit à Moïse, il n'y a pas de problème. Dieu au prêtre, deux jours, préparez-vous. Le troisième jour, je vais descendre. Ils vont me voir, ils veulent me voir. Je vais descendre. Deux jours, ils se sont préparés. Hein. Maintenant, quand Dieu a décidé de descendre, là, le même peuple qui a dit à Moïse, on veut voir Dieu. Ils ont dit, bah, écoute Moïse, bon, tu n'as qu'à aller, hein, quand même, vas-y. C'est pourquoi je dis souvent à certaines personnes lorsqu'elles prient, Seigneur, je veux voir ta gloire. J'ai dit à ces gens, vous savez ce que c'est la gloire de Dieu que vous demandez? Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, tu sais ce que c'est? Mais pour vouloir chercher à voir la gloire de Dieu, d'abord règle ta vie. Hein? Ah ben oui. Lorsque Salomon a terminé le temple là, pour Dieu, la gloire est descendue. Mais les sacrificateurs ont fui, ils n'ont pas pu supporter cette gloire. Lorsque Esaïe a rencontré cette gloire de Dieu, il est tombé, il dit « Malheur à moi, mes yeux ont vu le roi. » Mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et puis t'as... Non ! J'ai dit aux gens, faites attention aux prières que vous faites. Hein? Mais heureusement que Dieu, il est bon, il exauce pas toutes les prières qui sont faites sans intelligence. Vous vous rendez compte ? S'il devait exaucer toutes ces prières-là, « Seigneur, je vois ta gloire. » Le ciel se déchire. Et puis il arrive, paf, il y a un jugement de Dieu, puis la terre t'engloutit comme autant de Corée, là, et puis c'est fini pour toi. Mais l'amour a été révélé par le Fils.
Amen.
Donc, cela ne veut pas dire que la sévérité ou la sainteté de Dieu n'existe plus. C'est là. Mais c'est comme un diamant à plusieurs faces. Le Fils nous révèle que le Père, que Dieu est un Père, que Dieu est amour. Et donc, ça apporte un certain équilibre par rapport à notre relation avec Dieu. Il a des principes, c'est vrai, mais il nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne de temps en temps la fessée. Parce que lui-même, il a dit que celui qui aime, il châtie ses enfants, il leur donne la fessée. Donc généralement, quand il nous donne des fessées comme ça là, dans nos vies, c'est à cause de son amour. Il nous aime trop pour qu'on puisse se perdre. C'est ça l'amour de Dieu.
Amen.
Donc, quand vous voyez des personnes comme Jacob, Jacob ne connaissait pas le Dieu de son père Isaac. Mais Dieu, le Dieu d'Isaac, donc d'Abraham, il va se révéler à Jacob pour que Jacob, c'est-à-dire que les informations qu'il avait reçues de Dieu, mais non, on sort de ce cadre de l'information, mais pour qu'il puisse saisir la révélation de Dieu. Parce que ce jour-là, lorsque Jacob était à Bethel, lorsqu'il a vu ce ciel-là avec l'échelle et tout ça, c'est pas lui qui a fabriqué ça. Hein? C'est Dieu qui est venu vers Jacob. C'est pourquoi je dis que la révélation est une initiative divine. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Donc Dieu vient vers Jacob, il lui montre. Et il lui parle. Même chose, il confronte son serviteur encore une fois au surnaturel, il l'interpelle. Jacob, il est là dans un endroit qui semble être ordinaire, mais dans cet endroit qui semble être ordinaire, le Dieu extraordinaire et surnaturel vient le visiter là. C'est là qu'il rencontre des choses pas possibles, il voit qu'est-ce qui se passe, Dieu l'interpelle. Il voit cette vision de l'échelle, les anges qui descendent, c'est déjà cet interpellatif. Et ensuite, non seulement il voit, comme pour Moïse, mais il entend la voix. Dieu lui parle. Et quand Dieu lui parle, Dieu l'appelle lui aussi par son nom. Dieu l'appelle par son nom, Jacob. Dieu se révèle. C'est-à-dire que après cet événement de ce jour-là, lorsque Jacob parlerait de Dieu, il ne va pas se dire oh, le Dieu de mon arrière, je ne sais pas, mon grand-père Abraham. Lui-même, il a vu Dieu. Il a vu le Seigneur. Donc, Dieu veut que nous puissions le connaître tel qu'il est.
Amen. Amen.
Pas qu'on imagine. C'est pourquoi vous allez remarquer tous les différents noms de Dieu dans la Bible. C'est le résultat de quoi? Mais de la révélation de Dieu.
Amen.
Nous aimons confesser ces noms-là. Il y avait Jiré, il y avait Shama, il y avait Nissi. On est heureux de confesser ces beaux noms de Dieu. Mais est-ce que vous savez que ces noms-là, ce sont les révélations de Dieu dans des circonstances bien précises?
Amen. Amen.
Parce que Dieu n'a pas donné la révélation de sa personne de façon définitive. Nous rendons compte qu'au fur et à mesure, Dieu montre un aspect de ce qu'il est aux gens qui marchent. Il donne une partie de la révélation à Abraham, une autre à Moïse, une autre là-bas à David. Les hommes découvrent Dieu. Il dit, je suis le Dieu qui se suffit à lui-même, El Shaddai. Il le dit à Abraham, à un moment où Abraham veut aider Dieu. Dieu fait comprendre à Abraham que je n'ai pas besoin que tu m'aides pour accomplir mes desseins. Je me suffis à moi-même.
Amen. Amen.
Ne m'aidez pas. entre vous et moi, celui qui a besoin d'aide, c'est plutôt vous, c'est pas moi.
Alléluia. Amen.
Est-ce que tu sais que Dieu n'a même pas besoin de toi et moi pour exister?
Amen.
En vérité, Dieu n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. C'est nous qui avons besoin de Dieu.
Amen.
Alors, quelquefois, c'est par abus de langage que nous le disons, mais en réalité, comme nous disons aux gens, le Seigneur a besoin de toi. C'est faux. C'est nous qui avons besoin de lui. On le dit par abus de langage, hein, mais en réalité, est-ce que Dieu a besoin de nous? Pour être ce qu'il est, pour exister, Dieu n'a pas besoin des hommes. Parce qu'avant la création visible, dans son éternité, il existait bien avant nous. C'est pas vrai?
Amen.
C'est nous qui avons besoin d'avoir un repère. On vient d'où? Pour comprendre notre propre histoire, notre propre existence, il faut bien connaître Dieu. Mais Dieu, pour être ce qu'il est, il n'a pas besoin de nous. Donc quand certaines personnes ne prennent pas Dieu au sérieux, mais elles se mettent en danger elles-mêmes, ce n'est pas Dieu qui aurait un problème. Dieu se révèle. Ils ont découvert que c'était un Dieu dans les combats. Il pouvait leur donner la victoire, c'était un Dieu de victoire. Ils découvrent avec Amalek, tout de suite à leur sortie d'Égypte, que c'est un Dieu qui combat pour eux. Et c'est là qu'ils vont l'appeler Yahvé Nissi, l'Éternel est notre bannière. Mais l'Éternel est notre bannière, c'est parce qu'il y avait une circonstance qui était là. Et c'est là que vous allez comprendre avec moi que nous ne pourrons connaître Dieu que si nous sommes en situation. La connaissance de Dieu, il va toujours venir dans des moments de votre vie où il y a l'incertitude, dans des moments de votre vie où il n'y a plus rien à faire. Lui, il va venir démontrer qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion.
Amen. Amen.
Dieu agit dans nos vies de telle sorte que nous nous souvenions que si ce n'était pas Dieu, personne n'allait faire cela.
Amen. Amen.
Mais quand la médecine peut encore faire, Dieu ne peut pas véritablement glorifier parce que quand les hommes peuvent déjà faire, là, Dieu va faire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux faire avec la médecine. Vas-y, va à la pharmacie.
Amen.
Tu as mal à la dent? Va chez le dentiste. Tu vas pas aller prier pour ça. À moins que tu sois dans un pays très reculé, très pauvre, il n'y a pas de situation, et là dans ta foi tu invoques Dieu. Mais avec la société d'aujourd'hui, tu as mal à la dent, va chez les dentistes. Tu as mal à la tête, va acheter Doliprane. Après ça dépend de la foi de tout un chacun, hein. Il y en a qui ont mal à la tête, ils vont prier, ils vont s'imposer les mains eux-mêmes. Mais c'est pour dire que si seulement pour un petit mal de tête, toi tu prends Doliprane et que voilà mon Dieu, il me délivre de Doliprane. Bon, l'incroyant qui prend Doliprane, il va dire quoi? C'est pas vraiment extraordinaire, c'est vrai que Dieu l'a fait, mais ce n'est pas suffisant pour le mettre à sa place. Mais quand il n'y a plus rien à faire,
amen,
où tout est fermé, où tu as épuisé toutes les solutions possibles, et tu as regardé vers ton Dieu, tu dis, Seigneur, là, qu'est-ce que je vais devenir? Et Dieu ouvre un chemin où il y avait une impasse, et toi-même et ceux qui t'entouraient reconnaîtront que Dieu est Dieu.
Amen. Amen.
Et là, il recevra toute la gloire. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Dieu va permettre dans nos vies des situations. Pourquoi Dieu permet des situations, des épreuves dans nos vies? C'est pour que nous puissions maintenant le connaître.
Amen. Amen.
Dieu va permettre des situations pour que nous puissions le connaître. Les enfants d'Israël, comme je le disais tout à l'heure, ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham.
Amen.
Dieu permet la servitude. Maintenant, Dieu, il va envoyer permettre qu'il y ait les 10 plaies pour révéler en Égypte sa grandeur, qu'il est différent des dieux égyptiens.
Amen.
Pourquoi il le fait? Mais pour que ce peuple qui est esclave sache, comprenne que le Dieu justement d'Abraham n'est pas mort, mais il est supérieur aux dieux égyptiens. Ils vont découvrir que finalement, les 10 plaies qui touchent les 10 divinités majeures de l'Égypte, le Dieu de Moïse, il va confondre tout cela. qu'il faut que ce peuple puisse connaître Dieu. Parce que dans la vision de Dieu, c'est que le peuple devait marcher avec lui dans le désert. Mais, et ça j'aimerais vous le dire ce soir, Dieu ne peut pas demander à des personnes d'avoir la foi en lui, un, sans qu'il se révèle à ces personnes-là. Dieu ne peut pas demander à des personnes de marcher avec lui, un, si ces gens-là n'ont pas la foi en lui. Donc, pour que le peuple marche dans le désert, il fallait d'abord que ce peuple-là soit rassuré que le Dieu qui est leur Dieu est réellement Dieu.
Amen.
Mais comment ils allaient marcher dans le désert si Dieu n'avait pas démontré qu'il était différent des autres dieux? Donc, Dieu permet toutes ces situations en Égypte pour que le peuple comprenne que Dieu est Dieu.
Amen. Amen.
Parce que le rendez-vous, c'était dans le désert. Hein? Sinon, ils ont dit, non, on ne bouge pas d'Égypte, on ne bouge pas. Mais pour pouvoir rassurer le peuple qu'il fallait bouger, il fallait que Dieu démontre sa puissance. Mais là, j'ouvre encore une parenthèse. Ce qui est dommage, c'est que, même dans nos vies d'ailleurs, c'est ce qui se passe, malgré ce que nous vivons avec Dieu, même de surnaturel, on a toujours des cœurs durs. Vous avez vu ce peuple-là? Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir en deux. Ils marchaient dans le désert avec une colonne de nuée la journée, une colonne de feu la nuit. C'était du surnaturel. Ils ont vécu ça en permanence. Ils ont vu la manne. Ils ont vu la caille. Mais ça n'a pas empêché ce peuple-là de toujours se plaindre et d'être têtu, rebelle à l'égard de Dieu. C'est pourquoi je dis que le miracle n'emmène pas quelqu'un véritablement à la crainte de Dieu.
Amen.
Parce que si ce n'était que le miracle, ce peuple-là n'allait pas faire ce qu'il a fait dans le désert. Malgré le miraculeux qu'ils ont expérimenté, mais ils étaient toujours rebelles, le cœur toujours dur. Ce qui emmène véritablement les gens à craindre Dieu, ce n'est pas le miracle. Hein. Le miracle, c'est comme un feu de paille. C'est là, pour un temps, on voit Dieu, on est waouh. Après, chut. Parce que lorsque tu n'as pas véritablement rencontré Dieu de façon personnelle, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, Dieu veut que nous puissions le connaître. Parce que dans la relation, quand une relation se met en place, lorsque un homme et une femme décident de s'engager soit dans les fiançailles ou bien dans le mariage, c'est déjà un, cette relation-là, c'est le point de contact. Après, en vivant ensemble, ils vont apprendre à se connaître. Vous ne pourrez pas connaître l'autre si vous ne vivez pas ensemble. Vous allez faire comment? Pour connaître Dieu, il faut marcher avec Dieu. Or, pour marcher avec Dieu, il faut s'accorder avec sa parole. Pour marcher avec Dieu, il faut être fils, être en relation avec lui. Si on n'est pas en relation avec lui, on ne pourra pas marcher avec Dieu, on ne pourra pas connaître Dieu. Les épreuves, il va les permettre pour qui? Pour ses enfants. La connaissance. Et demain, on va aborder le troisième aspect, mais ce soir, je veux juste rester sur la connaissance. Parce que demain, on va prendre le temps de développer sérieusement en profondeur pourquoi Dieu se révèle. Là, on est en train de voir deux choses. Il se révèle parce qu'il veut qu'on soit en relation avec lui. Et de cette relation-là, il faut que nous puissions apprendre à le connaître. La connaissance de Dieu ne peut passer que par la relation avec Dieu. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de connaissance. Il faut que nous puissions être en relation avec le Seigneur. Et ça, c'est important que nous puissions le comprendre. Donc, Dieu est différent de tout ce qui se prétend être des dieux. Mais comment tu verras cette différence si tu n'es pas en situation? Tous les personnages dans la Bible qui ont élevé justement cette adoration à Dieu, c'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient en situation. Et là, j'aimerais, pour terminer ce soir, vous dire, dans la Bible, vous allez remarquer une chose. Chaque fois que Dieu fait un jour nouveau, la Bible dit qu'il termine sa création par « il y eut un soir, il y eut un matin ». Les ténèbres précèdent toujours la lumière. La lumière n'a de sens que lorsqu'elle est ténèbre. Si maintenant nous éteignons cette lumière, nous serons dans les ténèbres. Et si on allume, la lumière sera là, on sera tous contents. Mais en pleine journée, si cette salle était très éclairée par le soleil et tout ça là, si vous allumez la lumière en pleine journée, ça ne sert pas à grand chose. Ça n'étonne pas. Parce que bon, il y a comme une confusion, il y a la lumière. Mais c'est quand il y a les ténèbres que la lumière prend tout son sens. Donc, la seule façon pour nous de connaître Dieu, et lui sait que la seule façon pour lui de nous amener à la connaissance, s'il ne vient pas personnellement se révéler à nous comme il a parlé à Jacob, il a parlé à Abraham, il va permettre des épreuves dans nos vies. Il va permettre des épreuves. Il va laisser certaines situations. Pourquoi ? Pour que l'information ou les informations que vous aviez sur lui deviennent vivantes. Parce qu'on peut avoir des informations que Dieu sauve. Mais si tu n'as pas expérimenté cela, ça restera que de l'information. Tu peux avoir des informations sur Dieu guéri. Mais si tu n'as pas expérimenté le Dieu qui guérit, ça reste que de l'information. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le Seigneur, il est obligé de permettre des situations dans nos vies pour que l'on découvre qu'il est, encore une fois, trois points de suspension. Il est. Et je vous l'ai dit, le but de la révélation, c'est que nous découvrons qu'il est. Parce que lorsque tu découvres l'être de Dieu, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes cherchent la main de Dieu, ce que Dieu va faire pour eux. Mais rares sont ceux qui cherchent le cœur de Dieu. Rares sont ceux qui cherchent le cœur de Dieu. On court d'église, de campagne, de séminaire en séminaire pour chercher la main de Dieu. Dieu va faire, Dieu va guérir, Dieu va libérer. On cherche que la main, le Dieu qui fait, le Dieu qui fait. Mais on oublie qu'avant de faire, il faut être.
Amen.
Celui qui n'est pas, il ne fera pas. C'est parce que Dieu est vivant qu'il agit. S'il était mort, il n'agirait pas. Donc, si je découvre l'être de Dieu, même s'il ne fait pas aujourd'hui, je sais qu'il fera toujours parce que Dieu est vivant.
Amen. Amen.
Or, ceux qui cherchent la main de Dieu le faire, quand ils ne voient pas, ils sont déçus, ils sont frustrés. Et ils disent que Dieu m'a déçu. C'est ce qui se passe. Dieu m'a déçu. Pourquoi nous le disons? Mais parce qu'on n'a pas connu le cœur de Dieu. Qui il est? Qui est-il? C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il était avec ses disciples et à un moment donné, il leur pose la question: qui suis-je? Alors, chaque fois que je lis ce passage dans la Bible, j'ai l'impression, humainement parlant, on pourrait dire que la question de Jésus, elle était bête. Mais elle n'était pas bête, hein. Vous vous rendez compte, après toutes ces années avec ses disciples, ils ont mangé avec lui. C'est lui qui les a appelés. Il les a même établis apôtres. Mais un jour comme ça, on ne sait pas quelle mouche l'avait piqué. Jésus leur pose la question. Dites-moi un peu, qui suis-je pour dire des gens? D'abord, il commence par les gens, hein. Oh, les uns disent que tu es Jérémie, l'un des prophètes, tu es Jean-Baptiste. Ils les écoutent. Maintenant, il leur pose la question à ses apôtres. Mais vous, là, que dites-vous que je suis? Et la Bible dit que quand Jésus leur pose cette question, il y aura une vive discussion. Ils vont commencer à se regarder, se poser des questions. On est content un peu de la scène. C'est comme si il les a réveillés. Alors j'imagine, ils sont là entre eux, ils disent, mais au fait, c'est vrai ça, en fait, c'est qui? Il est qui même? Parce qu'on a dit qu'ils ont commencé à discuter entre eux. Qui est-il? Jésus leur pose la question, hein? Qui suis-je? Ils cherchent l'être, la compréhension de son être, qui il est. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Sa préoccupation, est-ce que nous qui marchons avec nous savons qui il est? Qui suis-je? Personne personne a pu trouver qui il était. Pourtant, ils étaient ses disciples, ils étaient les apôtres. Pourquoi? Maintenant, quand Simon Pierre prend la parole, il arrive, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous bénissons Dieu parce que ces choses sont écrites. Mais si Jésus n'avait pas dit à Pierre que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce que tu as dit là, c'est pas toi. Hein? Parce que si il dit que ce que tu as dit, ce n'est pas toi, il dit c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est pourquoi je dis que connaître Dieu, c'est une révélation. Si ça ne vient pas de lui, si ce n'est pas lui qui t'éclaire, tu ne connaîtras pas. Donc, le Seigneur vient révéler, il dit qui est le Fils à Pierre. Et Pierre découvre que finalement Jésus est Fils de Dieu. Mais Jésus est Fils de Dieu n'a pas été une imagination de Pierre. Le Père a révélé cela à Pierre. Sinon, Pierre aurait eu toute la gloire. Hein? Vous dites, vous avez vu? Je suis le seul, j'ai trouvé. Donc je mérite les clés du royaume, c'est moi Pierre. Non, Jésus dit à Pierre, ce que tu as dit là, c'est pas toi. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de l'intelligence humaine, ça ne vient pas de ton raisonnement, ça vient de Dieu. C'est le Père qui révèle le Fils. Il dit, tu es le Fils de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de vous parler de révélation. Le problème de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. C'est-à-dire que nous marchons avec Dieu, mais que sur la base des informations. On ne prend pas le temps de se disposer pour recevoir la révélation, saisir, apprécier la révélation de Dieu. Le gros problème, il est là. Nous avons des gens qui ont une image de Dieu, mais qui n'est pas la vraie image de Dieu. Quand des gens servent Dieu avec négligence, ça dénote la compréhension de la révélation de Dieu. Lorsque je sers Dieu avec négligence, c'est que je ne le connais pas.
Amen.
Quand je me dis chrétien et que je joue avec le péché et je continue à invoquer Dieu, c'est que je ne le connais pas.
Amen.
Alors la question, qui as-tu rencontré? Parce que si c'est le Dieu que Esaïe a rencontré là, Esaïe, il est tombé à terre, il dit malheur à moi. Il dit, j'ai vu le roi, je suis un homme aux lèvres impures. Tout de suite, la sainteté de Dieu lui a renvoyé sa propre indignité. Tu ne peux pas rencontrer ce Dieu glorieux et ton propre péché ne te parle pas.
Amen.
C'est pas possible.
Amen.
Le Dieu de la Bible, non. Tu le rencontres, tu sens que tu es dérangé, qu'il y a ce besoin de te mettre en règle. Mais tu dis que tu as rencontré Dieu et tu es tranquille dans le péché. Non, c'est que ce n'est pas le Dieu de la Bible que tu as rencontré. Hein. Tu as rencontré quelqu'un d'autre. Parce que dans le monde des esprits, on peut être en communion avec d'autres esprits. Il n'y a pas que Dieu. Hein. Ah oui. Il n'y a pas que Dieu dans le monde des esprits. Là. Tu es en communion avec qui? Parce que si tu es dans la mauvaise connexion, il y aura des virus. Hein. Ah mais c'est comme en informatique. Tu es dans la mauvaise connexion, il y aura des virus qui vont te détruire. Or, le but c'est que nous puissions, c'est ça son souhait, que nous puissions comprendre qui il est.
Amen.
Le souci de Dieu c'est ça, c'est que nous devons comprendre qui il est. Il est. Alors la question, qui est-il? Qui est Dieu pour nous? Qui est-il? Normalement si on avait compris Dieu, on parlerait de lui avec beaucoup de révérence. Hein. Deux, même quand on prie, on adore. La Bible dit quoi dans Ecclésiaste? On dit que Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, que vos paroles soient peu nombreuses. Ne vous précipitez pas à parler. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que quand nous parlons à Dieu, il faut que tu réfléchisses.
Amen.
Parce que parler à Dieu, ce n'est pas la course de son maître. Hein. Parler à Dieu, c'est vraiment tu es en train de parler à quelqu'un. Or, dans nos églises, généralement quand on dit prier, là, c'est comme si on vous a donné le feu vers le à vos marques. Prêt, partez. Et tout le monde, il y en a même qui transpirent. Mais attendez un peu, Dieu, là, c'est pas la course. Hein. parler au Seigneur et en même temps tu contemples ce qu'il est. Même dans ton silence, il y en a même ton propre silence dans sa présence parle. Donc,
amen.
On sent qu'il y a même cette révérence là. Mais aujourd'hui Dieu là, Dieu, tout le monde dit Dieu par-ci, Dieu par-là. Mais est-ce que nous le connaissons? Pourquoi Dieu se révèle? Parce qu'il veut que nous puissions le connaître. Et pourquoi Dieu veut que nous puissions le connaître? Parce que lorsque tu connaîtras Dieu, ça va faire naître en toi ce que nous allons développer en long et en large demain, la foi. La foi est le résultat de la connaissance de Dieu. Quand il n'y a pas la connaissance de Dieu, il n'y aura pas la foi en Dieu et la foi de Dieu qu'on verra demain. C'est Dieu qui suscite la foi à travers la révélation. Et lorsqu'on a la révélation de Dieu, cette foi-là, elle naît dans le cœur. Et cette foi qui naît dans le cœur nous permettra maintenant de marcher, de servir Dieu. Mais cette foi-là, c'est Dieu qui doit la susciter dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, nous allons le voir demain. Mais pour ce soir déjà, c'était d'abord la phase interrogative, interpellative. Dieu est trois points de suspension. C'est pourquoi il a dit à Moïse, il n'a pas voulu faire des commentaires. Il dit « Je suis ». Il n'a pas dit que « Je suis ». Le Dieu qui guérit, il a seulement dit « Je suis ». Pourquoi? Parce que chacun de nous, dans notre marche, nous découvrons la suite du « Je suis ». Je suis, dans ta marche, tu vas découvrir qu'il est celui qui guérit. Je suis, dans ta marche, tu découvriras qu'il est le Dieu qui fait justice. Je suis, dans ta marche, tu découvriras qu'il est le Dieu qui bénit. Je suis, dans ta marche, tu découvriras qu'il est le Dieu qui fait grâce. Mais tu découvriras la suite, mais c'est dans la marche. Donc il n'a pas voulu dire « je suis » parce qu'il y a tellement de choses qu'il est, il ne pouvait pas tout dire. Là, il a dit « je suis ». Trois points de suspension. Parce que chacun de nous va expérimenter une facette, un aspect de Dieu. Il y a des choses que ton voisin va connaître avant toi et d'autres choses que toi tu connaîtras avant lui. Ça ne veut pas dire que toi tu découvres le Dieu de paix et que lui n'a pas encore découvert, que Dieu ne va pas se révéler à lui. Pour toi, c'est une grâce par rapport à une circonstance de ta vie.
Amen.
Mais si nous faisons le recoupage de toutes ces révélations de Dieu, nous nous retrouvons avec ce qui s'est passé dans la Bible. Parce que les différents noms de la Bible, ça n'a pas été donné à une seule personne. Tous ces noms-là qu'on cite, Yahvé, Jiré, Shalom, là. Il y a Gédéon qui a eu des révélations, les Abraham, les Moïse, les David. Toutes ces personnes ont eu ces aspects de Dieu. Et nous, on les a découverts et on commence à l'appeler. Mais ce sont des individus qui ont vécu à des époques totalement différentes, qui ont vécu des circonstances totalement différentes, qui ont découvert. Ça, c'est Dieu. Donc, ici, dans cette salle, on pourrait également, chacun ici présent, en fonction de comment Dieu est venu vers vous dans des circonstances bien précises, élever Dieu. On pourrait effectivement s'amuser à notre époque aussi, d'actualiser cela. Oui, qui est-il? Si on devait faire le bilan même 2013, le Dieu 2013, l'action de Dieu en 2013, qu'est-ce que Dieu a fait? D'aucuns diront qu'en 2013, j'ai vu le Dieu de justice. En 2013, j'ai vu le Dieu qui distingue. En 2013, j'ai vu le Dieu de délivrance. En 2013, j'ai vu le Dieu qui guérit. Chacun de nous, chaque jour, chaque saison, chaque année, vit des choses, découvre les aspects de Dieu. Non, après, c'est à nous deux d'apprécier tout cela. Mais pour ce soir, il faut dire qu'on puisse réfléchir. Dieu veut nous parler pendant ces trois jours. Dieu va se révéler. Nous voulons que Dieu se révèle, mais quand Dieu se révèle, c'est pour un but. Et le but final, nous le verrons le dimanche, c'est vraiment ce qu'il poursuit dans la révélation. Mais demain, nous allons développer la foi, c'est-à-dire la confiance. Parce que lorsque tu connais une personne, tu peux lui faire confiance, oui ou non? Parce que la confiance, ça se mérite, n'est-ce pas?
Amen.
Est-ce que nous faisons confiance à tout le monde? Non. À quel moment tu fais confiance à une personne? Quand elle réussit à te rassurer. Quand tu découvres au fur et à mesure que tu es cette personne-là qu'elle est digne de confiance, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Vous ne pourrez pas dire que je fais confiance à Dieu comme ça. Et Dieu, il le sait. C'est pourquoi il va travailler dans nos vies pour que nous puissions lui faire confiance. Il ne nous oblige pas à lui faire confiance. Mais il va tout faire, il va tout mettre en place pour que tu puisses lui faire confiance. Parce que lui, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Donc, quand cette confiance, elle est acquise, c'est ce que nous appelons la foi. Maintenant, lorsqu'il va te parler, là, tu ne vas plus douter. Pourquoi? Parce que tu as déjà vu. Quand tu vas te dire, fais ceci, tu ne douteras pas. Parce que tu as déjà expérimenté. Donc, l'expérimentation de Dieu, c'est-à-dire cette connaissance que tu auras, t'amènera à lui faire confiance. Tu ne pourras plus douter. Tu te diras toujours, si hier il a fait, aujourd'hui là, il va encore faire. Je refuse de remettre Dieu en question à cause d'une circonstance de ma vie aujourd'hui, alors que hier je l'ai vu agir dans d'autres domaines de ma vie. Non Seigneur, je veux apprendre à être patient, je sais que tu vas faire. Voilà le langage de quelqu'un qui a connu Dieu et qui vit des situations dans sa vie aujourd'hui, mais qui refuse de remettre Dieu en question. Mais combien de chrétiens et de chrétiennes remettent Dieu en question à cause des situations que nous vivons aujourd'hui? Mais nous avons la mémoire courte parce que hier Dieu l'a fait.
Amen.
Alors si hier Dieu l'a fait, pourquoi ne ferait-il pas aujourd'hui? Dieu ne change pas. Il faut plutôt se poser les bonnes questions. Pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque part il ne veut pas m'éduquer? Est-ce que quelque part il n'y a pas des choses dans ma vie qu'il veut briser? Est-ce qu'il ne veut pas apporter un plus dans ma vie? Parce que Dieu ne lui change pas. Et comme Dieu n'est pas dans un système, Dieu n'est pas systématique. C'est ça, Dieu, esprit. Dieu est esprit. Un esprit, vous ne pouvez pas le bloquer dans un système. Un esprit doit avoir de l'espace pour se mouvoir. Or, aujourd'hui, nous avons systématisé Dieu. On aimerait que chaque fois que l'on vit des situations, si hier dans ta situation, tu avais jeûné 7 jours, tu aimerais que chaque situation de ta vie, quand tu vas jeûner 7 jours, ça sera le sésame, ouvre-toi. Or, tu vas te rendre compte que tu vas vivre une autre situation dans ta vie, tu vas jeûner 7 jours, il n'y aura aucun résultat. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner une leçon et un enseignement qui n'est pas dans un système. On ne peut pas le mettre dans une boîte pour dire que... C'est-à-dire que Dieu n'est pas du domaine... Il n'est pas prévisible. Dieu n'est pas prévisible. Parce que si Dieu était prévisible, il ne serait plus Dieu. Dieu nous étonne. Dieu nous surprend. C'est ça qui fait son charme. Mais si chacun savait déjà comment Dieu allait opérer, comment Dieu allait faire, on allait même le désacraliser. Puisqu'on connaît. Est-ce qu'on allait encore adorer Dieu? Puisqu'on connaît déjà ce qu'il va faire. Il y a toujours ce mystère. Or, nous ne comprenons pas que Dieu ne veut pas être mis en bouteille. Ce qui fait qu'on est frustré parce qu'on dit, mais hier, j'avais jeûné, j'étais allé en retraite pour ceci, j'ai vu la main de Dieu, mais là je ne comprends pas, je jeûne, je prie, Dieu ne fait rien, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais parce que tu as cru que le système d'hier, là ça va marcher aujourd'hui. Il y a une histoire dans la Bible où Dieu, les enfants d'Israël étaient en conflit avec les Syriens. Alors, chaque fois que les Syriens se battaient avec Israël, ils perdaient. Ils se battaient avec Israël, ils perdaient la bataille. Alors, ils ont réuni leur conseil, ils ont dit non, il y a quelque chose qui cloche. On est toujours battu parce que nous combattons avec ces gens-là sur la plaine. Les combats étaient souvent dans des lieux élevés, des montagnes. Ils ont dit leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Si on perd, c'est parce qu'on est en train de combattre sur la montagne. Amenons-les sur les plaines et on sera vainqueur. Ils ont cru que Dieu était sur la montagne. Alors ils vont sur la plaine pour combattre. Et là, Dieu va encore permettre qu'ils le perdent. Parce que Dieu va parler à son prophète, donc ils ont cru que je ne suis qu'un Dieu sur la montagne. Ça veut dire que je suis limité que à agir sur la montagne. Dieu n'est pas limité à la montagne.
Amen, amen.
Nous ne limitons pas Dieu par nos jeûnes. Ne limitons pas Dieu par nos retraites. Dieu ne dépend pas de ces choses. Vous savez que Dieu, pour agir, n'a pas besoin de tout ça. Il peut le faire comme il ne peut pas le faire. Il peut te délivrer par un jeûne comme il peut te délivrer sans le jeûne. Dieu est Dieu. Il nous demande qu'une seule chose, d'avoir la foi.
Amen.
En lui.
Amen.
Le reste, c'est lui qui va faire.
Amen.
Mais si on reste dans le système, on m'a dit que si je fais ça, il y aura tel résultat. Le « on » là, si c'est Dieu lui-même, c'est bon. Mais si ce sont les hommes, ça ne marchera pas.
Amen.
Parce que Dieu n'est pas dans un système. Dieu est du domaine de la révélation. Vous ne pouvez pas le saisir. Hein? On ne pourra pas le saisir avec notre intelligence. C'est pourquoi c'est un Dieu qui nous surprend toujours. Il y a un homme de Dieu qui, quand il fait sa prière, c'est quand j'étais en mission en Côte d'Ivoire, il commence sa prière, il dit « Impressionnant Dieu ». Alors j'aimais bien l'entendre prier parce qu'il commençait par « Impressionnant Dieu ». Chaque fois qu'il priait, même pour le repas à table, « Impressionnant Dieu ». Ah, voilà quelqu'un qui a compris. Que Dieu nous impressionne. Et c'est ce Dieu-là qui est le Dieu véritable et vivant. Alors on va s'incliner, on va prier ce soir. Impressionnons Dieu. La création nous donne des informations sur Dieu, mais la création ne te permettra pas de connaître Dieu. Dieu, tu le connaîtras lorsque tu entreras en relation avec lui. Et de cette relation-là, tu vas découvrir qui il est. Et lorsque tu découvriras qui il est, alors tu pourras avoir la foi nécessaire de marcher avec Dieu, de le servir, de l'invoquer, parce que tu auras eu la révélation de Dieu. Alors tu vas prier que le Seigneur, encore une fois, illumine les yeux de ton cœur, afin que tu puisses comprendre véritablement qui il est. Tel est son désir pendant ces 3 jours. Et tu pourras faire une prière pour dire, Seigneur, je veux que pendant ces 3 jours, que tu me fasses découvrir un autre aspect de toi. Tu es un Dieu qui se révèle. Et si tu as mis à cœur ce sujet sur la révélation, assurément tu veux te révéler à moi. Tu veux certainement qu'en cette année 2014, je passe à un niveau supérieur. Que j'avance et que je progresse dans la connaissance de ta personne. Oui, tu peux prier pour toi-même et te recommander entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu parles encore aujourd'hui aux hommes.